Néhémie, ce livre de Néhémie qui est particulier, et qui est particulier aussi pour nous, parce que nous sommes dans cette recherche en ce moment d'un nouveau local. Donc il y a une petite similitude qui se fait par rapport à ce livre de Néhémie. Nous avons vu que c'était un homme de prière, un homme d'action aussi, qui a été capable de connaître la volonté de Dieu, de persévérer dans la prière et puis d'accomplir. Pendant 52 jours, ils ont été capables de reconstruire la muraille en entier. Il a communiqué cette vision à tout le peuple et donc ils ont accompli cet exploit à la barbe de tous les ennemis qui voulaient les empêcher. Et c'est vraiment l'image de ce que Dieu veut faire dans le chacun de nos cœurs, avec chacun d'entre nous. Dieu désire nous bénir et nous utiliser. Même si l'ennemi a d'autres projets, Dieu est capable de renverser ses projets et d'accomplir sur nos vies ses projets pleins d'avenir et d'espérance. Que ce nom soit béni. Alors on va ouvrir la Bible dans Néhémie au chapitre 11. Avant ça, on va lire au chapitre 7. Parce que entre le chapitre 7 et le chapitre 11, on se rend compte qu'il y a comme un aparté. Il y a eu le moment où la muraille a été reconstruite, et puis il y a ce moment où les cœurs ont besoin d'être reconstruits, et de quelle manière ça se fait? C'est Esdras qui prend le relais, c'est Esdras qui met la loi au centre, c'est Esdras qui lit la parole, et pendant plusieurs jours, pendant même plusieurs moments, plusieurs semaines, il y a tout un retour à la loi qui se fait, le renouvellement de l'alliance, on a vu ça les dernières fois, il y a les conséquences à l'alliance, quand on s'engage auprès du Seigneur, il y a ce devoir d'obéissance, mais pour notre bénédiction. Et maintenant, on se pose cette question, parce que il y a toujours un problème qui est là. Malgré le fait qu'on est revenu à la parole de Dieu, il y a toujours un problème qui demeure, c'est que la ville de Jérusalem est déserte. Dans Néhémie chapitre 7, verset 4, voilà ce qu'il est dit. La ville était spacieuse et grande, mais peu peuplée, et les maisons n'étaient pas bâties. Maintenant, on va au chapitre 11, et dans le chapitre 11 de Néhémie, on se rend compte que c'est exactement la réponse au problème qui est en train de se faire, c'est qu'on commence à s'intéresser à repeupler la ville. Voilà pourquoi ce matin, le thème du message qui nous parle à nous, c'est « Qui habitera la ville sainte ?» Il y a un parallèle qui est fait entre la Jérusalem terrestre et la Jérusalem spirituelle. D'accord ? Et quand on étudie la parole de Dieu, il faut toujours réfléchir de cette manière. Quand on regarde à l'Ancien Testament, le grand principe pour lire l'Ancien Testament et le bien l'interpréter, c'est de faire ce parallèle entre ceux qui arrivent à Israël et puis ceux qui arrivent à nous de manière spirituelle. Israël, c'était de manière physique, mais à nous, c'est de manière spirituelle. Et nous sommes appelés à habiter la Nouvelle Jérusalem. Vous inquiétez pas, je vous dis pas d'aller prendre vos bagages et d'aller en Israël là-bas et d'habiter à Jérusalem, c'est pas ça. C'est spirituel. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à la Nouvelle Jérusalem? C'est quoi? Oui, c'est la ville sainte, mais c'est quoi d'autre? J'entends pas. Plus fort. La présence de Dieu, oui. Oui, tout ça c'est très bien, mais c'est pas ce que je veux. Dans Apocalypse 21, quand il dit la Nouvelle Jérusalem, il est dit c'est l'épouse de l'agneau. L'agneau, on sait que c'est Jésus qui a donné sa vie à la croix. L'épouse de l'agneau, c'est qui? L'Église. La Nouvelle Jérusalem, c'est l'Église. C'est ce rassemblement de personnes qui ont mis leur foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus. Et si nous voulons être de ceux qui habitent dans la Nouvelle Jérusalem, nous devons simplement être de ceux qui ont accepté le sacrifice de Jésus à la croix et qui sont maintenant partie intégrante de l'Église. La Nouvelle Jérusalem, c'est pas une ville avec des briques et des murs de pierre, c'est une ville avec des pierres vivantes. Chacun d'entre nous qui confessons le nom du Seigneur. Et ce passage est interpellant déjà, alors qu'on va rentrer dans cette lecture dans Néhémie 11, ce passage il est interpellant parce que c'est vraiment le parallèle qui se fait entre notre monde aujourd'hui. On peut dire que la ville sainte, l'Église, elle est grande et spacieuse. Qui sait que le Seigneur refuse de recueillir dans ses bras? Quelle personne il va dire non, toi tu ne mérites pas de rentrer et je suis pas mort à la croix pour toi? À qui le Seigneur va pouvoir dire ça? Personne. C'est-à-dire que les bras de Dieu sont grands ouverts pour toute l'humanité. Maintenant, il faut passer par le chemin que le Seigneur nous a tracé. C'est lui. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et nous avons une ville grande et spacieuse, l'église, avec un grand E, je parle pas de ce local, je parle de l'église qui rassemble tous les croyants de toute la planète. Elle est grande et spacieuse, mais elle est déserte. Vous trouvez qu'il y a assez de monde dans l'église? Vous trouvez qu'il y a assez de monde ici? On est content pour les personnes qu'il y a, mais est-ce qu'on est satisfait? Non, Seigneur, on veut qu'il y ait encore plus de personnes qui te connaissent. C'est pas pour avoir des foules à nos côtés, hein, parce que c'est vrai que quand on chante et qu'on a des foules à côté de nous, c'est plus facile. Mais c'est pas ça. C'est surtout parce que ceux qui sont pas dans l'église avec un grand E, ben, ils marchent tout droit vers l'enfer. Et notre cœur doit être passionné et avec une intercente prière pour que ces personnes puissent venir être intégré à l'église. C'est pour ça que quand je pose cette question, qui habitera la ville sainte? Moi, le premier, je dis, Seigneur, moi, je veux habiter cette ville-là. Moi, je veux faire partie intégrante de cette ville. Et nous voyons dans ce chapitre de Néhémie, donc chapitre 11, verset 1er, nous voyons que c'est ce qui se passe. Alors, on va pas tout lire parce que, comme beaucoup des chapitres de Néhémie, il y a des listes de noms. Et il faut savoir parler l'hébreu pour comprendre tout ce dont il est question. Mais rapidement, regardez quelles sont les personnes qui ont été désignées ou qui ont voulu de même habiter dans la ville. Et ça nous donne un parallèle par rapport à nos propres vies. Les chefs du peuple s'établirent à Jérusalem. Le reste du peuple tira au sort pour qu'un sur dix vînt habiter Jérusalem, la ville sainte, et que les autres demeurassent dans les villes. Le peuple bénit tous ceux qui consentirent volontairement à résider à Jérusalem. Voici les chefs de la province qui s'établirent à Jérusalem. Au verset 4, à Jérusalem s'établirent des fils de Juda et des fils de Benjamin. Des fils de Juda, Ataja, fils d'Ozias, fils de Zacharie, fils d'Amaria, fils de Shephatia, fils de Mahaleel, des fils de Peretz, etc., etc. On va au verset 10, des sacrificateurs. Deux points, Jedaïja, fils de Jojarib, Jakin, Serajia, fils de Ilkija, etc., etc. On va au verset 15, des Lévites, Shemaïja, fils de Hashub, fils de Azrikam, etc., etc. Verset 19, les portiers, et on peut lire, ouais, Akub, Talmon et leurs frères, gardiens des portes, 172 au total. Et on va s'arrêter là. Je vous fais grâce de tous les noms en hébreu, donc, parce que je voudrais vraiment attirer votre attention sur les personnes qui ont habité la ville de Jérusalem, parce qu'il y a un vrai parallèle qu'il se fait entre ce type de personne qui est là et chacun d'entre nous. Oui, il y a une diversité. Oui, chacun, on est différent. Oui, heureusement qu'on n'est pas tous les mêmes dans l'église du Seigneur, mais que chacun vient avec ses qualités, ses défauts, avec son caractère. Et ça donne vraiment une diversité, une beauté dans la diversité. Le Seigneur, il est merveilleux parce que il montre que dans sa création, il y a toutes sortes de facettes différentes. Mais dans ces habitants qui sont là, nous voyons des types, des caractères, des qualités que chacun d'entre nous devons exprimer pour nos propres vies. Nous devons tous être des hommes et des femmes de sang royal, nous devons tous être des hommes et des femmes saintes, nous devons tous être des hommes et des femmes de service. Et c'est exactement les catégories de personnes qu'on retrouve, et c'est ce qui doit nous encourager ce matin. Avant cela, parlant du fait que on a ce désir de voir des âmes se sauver, être sauvées, je me souviens de cette histoire que m'a racontée un monsieur qui était péruvien, et qui connaissait un pasteur, un évangéliste qui avait été invité pour une mission dans une église. C'était une petite église, il y avait vraiment toute petite, elle venait de commencer, il y avait 20 personnes. Et puis donc l'évangéliste, il demande, mais qu'est-ce que je peux apporter, quel est le thème qui va vraiment toucher les cœurs? Il demande ça au pasteur, et le pasteur il dit, tu peux prêcher toute la parole, il n'y a pas de problème, que le Seigneur te conduise, sauf, surtout ne parle pas d'évangélisation, d'être des témoins et de rendre donc témoignage autour de soi. Parce qu'on est 20, mais on est satisfait avec 20. On se connaît tous par notre prénom. On sait à quel moment telle personne va prier dans le culte. Donc on est bien habitué. On arrive à tourner dans l'église, c'est très bien comme ça. Surtout ne prêche pas sur l'évangélisation. Tout, mais pas l'évangélisation. Est-ce que ça c'est la bonne vision? On est d'accord? Vous savez c'est quoi la vision du Seigneur? Elle est simple. Dans 1 Pierre 2, 9, il dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous sommes devenus le peuple du Seigneur et nous sommes appelés à habiter la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes appelés à être de ses habitants qui démontrent par leur vie ce caractère de Jésus-Christ et qui annoncent les merveilles, la miséricorde, la bonté et la compassion de notre Seigneur. C'est exactement ce que nous devons faire. Surtout, ne disons jamais, Seigneur, tu vois, on est assez nombreux. Oh, c'est bon, Seigneur, arrête d'envoyer des personnes. Surtout, ne faites pas cette prière, parce que c'est pas bien. Mais demandez au Seigneur qu'il puisse toucher des personnes. Ou qu'elles viennent dans ce lieu, ou qu'elles aillent ailleurs, peu importe. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles fassent la paix avec Dieu. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles comprennent que la parole de Dieu, c'est la vérité. Ce qui m'intéresse, c'est qu'elles puissent être sauvées et que dans le ciel, on puisse se retrouver tous ensemble pour louer le Seigneur. Amen. Alors, première catégorie de personnes, vous avez vu, les chefs du peuple, les fils de Judas, les fils de Benjamin, c'était ceux qui avaient du sang royal dans les veines. La tribu de Judas, David était de cette tribu, la tribu de Benjamin, c'était Saül et Jonathan qui étaient de cette tribu, et c'était donc la famille, les familles royales qui étaient représentées, c'était les chefs de famille qui étaient là, c'était ceux qui avaient une responsabilité, et j'ai résumé donc de cette manière les hommes et les femmes de sang royal. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être de sang royal? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, il faut pas faire grand-chose. Il faut, ça vient de notre naissance. Ça vient du fait que nos parents, ils sont rois, tout simplement. On est d'accord? C'est pas compliqué hein, ce que je vous dis ce matin. Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que ce matin, je connais un roi qui serait intéressé à vous adopter. Ça vous intéresse? Être adopté par un roi, c'est pas mal, hein, parce que ça veut dire que derrière, il y a la vie royale qui va avec. Mais le roi en plus, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quel roi, c'est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Dieu, le Père, il veut nous adopter, il veut nous faire de chacun d'entre nous des princes et des princesses, des hommes et des femmes qui se deviennent de sang royal, non pas par le sang physique, mais par le Saint-Esprit. Le Seigneur nous donne d'être de sa famille, le Seigneur nous donne d'être de ceux qui sont appelés de son nom. Tu as fait d'eux un royaume des sacrificateurs pour Dieu et ils régneront sur la terre. Vous savez que vous êtes appelés à régner. Si vous habitez dans la Nouvelle Jérusalem, vous êtes appelés à régner sur la terre. C'est la Bible qui le dit, hein, c'est pas moi. Nous sommes tous, par la foi en Jésus-Christ, appelés à régner sur la terre. Simplement, c'est pas maintenant. Il faut être patient. Maintenant, c'est d'autres personnes qui gouvernent et qui dirigent. N'allez pas voir Monsieur Macron en lui disant « Je suis appelé à régner sur la France. » Parce que je sais pas comment il va vous recevoir. Oui, c'est la Bible qui le dit. Ben non, mais si vous lisez bien la suite, ils régneront pendant 1000 ans. Donc il faut un corps qui tienne pendant 1000 ans. En fait, il faut être que la résurrection soit accomplie, etc., etc. Là, on rentrerait dans les détails de l'Apocalypse, on n'a pas le temps ce matin. Mais c'est un appel que le Seigneur nous lance sur chacun d'entre nous. Nous sommes des princes et des princesses appelés à régner sur la terre. Mais nous sommes appelés ici-bas à régner sur certaines choses. Et dans Romains, on peut le lire ça ensemble. Romains chapitre 5 et le verset 17. Voilà déjà un élément qui nous montre sur quoi on peut régner sur la terre. Romains, chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, et question d'Adam, au travers d'Adam et de sa faute, la mort a commencé à régner dans le monde. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. Le Seigneur nous appelle à être de ceux qui règnent dans la vie, de ceux qui règnent et qui ne laissent pas la mort régner sur eux. Vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ne pas laisser la mort régner sur nous? Est-ce que ça veut dire qu'on va jamais mourir? Bien sûr que non. On sait tous qu'on est tous les mêmes. La parole de Dieu le dit, hein, que tout le monde face à la mort est le même. On a tous ce risque que la mort vienne nous saisir à un moment donné à un autre. C'est pas parce qu'on est vieux, c'est pas parce qu'on est jeune, c'est pas parce qu'on est malade ou c'est pas parce qu'on est en bonne santé que ça peut pas arriver. C'est vraiment des choses qui peuvent se passer soudainement. Mais régner sur la mort, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne pas être toute notre vie accablé par la peur de mourir. Quand on s'approche du Seigneur Jésus, quand on choisit que Dieu devient notre Père par la repentance, par le fait de confesser son péché et le fait d'accepter le pardon que Dieu nous donne à la croix, quand on fait cela, on a une assurance dans le cœur et on sait que même si on meurt, mais on va aller avec notre Seigneur. Et que la mort n'est qu'une étape pour aller vers la vraie vie finalement. Voilà ce que c'est de régner dans la vie. C'est de comprendre que la vie ne s'arrête pas simplement à cette période terrestre, mais qu'il y a une période spirituelle également qui nous concerne tous. Et combien c'est merveilleux de pouvoir savoir que nous passons l'éternité avec Dieu. Régner sur la mort. Qu'est-ce que ça veut dire aussi régner dans la vie? Ça veut dire ne pas subir toutes les difficultés de la vie. Vous savez, quand y a un événement difficile qui se passe, on peut soit le prendre en disant « Ah, encore une fois, ça arrive, c'est injuste, oh là là, pourquoi, c'est des catastrophes, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» et puis passer notre temps à se plaindre, à gémir, à pleurer. Ou alors on peut dire « Par la grâce de Dieu, je vais pouvoir avancer malgré les circonstances. » C'est pas ce qu'on a chanté, « Mon secours est en toi ». Ça sert à quoi de chanter « Mon secours est en toi » et puis après, dès qu'il arrive une tuile sur la tête, « Ah Seigneur, qu'est-ce que tu fais? Tu m'as oublié !» Non, « Mon secours est en toi », même si j'ai une tuile qui me tombe sur la tête, Seigneur. Je sais que tu vas me donner la force d'avancer. Je sais que tu as tout prévu pour que même dans les circonstances difficiles, je puisse marcher, aller de l'avant. Et je pensais à cet exemple, un frère cette semaine qui me parlait. Vous savez, des fois quand on conduit, moi c'est le premier, ça m'arrivait souvent, quand on conduit et qu'il y a des personnes devant nous qui font des queues de poisson ou qui roulent très mal ou qui roulent très vite ou très doucement, et à un moment donné on arrive à un stade où on est énervé. Ça vous arrive? Oui, il n'y a que moi. Non, il n'y a pas que moi, je sais, parce qu'il y a un autre frère qui m'a partagé que c'était la même chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire régner dans la vie dans ces situations-là bien concrètes? Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut pas qu'on règne dans la vie de manière mystique, mais qu'on règne dans la vie de manière précise. Mais c'est de dire, je choisis, plutôt que de râler et de pester contre la personne qui m'a fait une queue de poisson, je choisis de la bénir. Parce que j'ai été appelé à bénir, on a vu ça cette semaine dans la réunion de prière, appelé à bénir. Bénissez au contraire. Car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Et voilà ce que c'est. Si je règne dans la vie, je dis, Seigneur, moi je veux arrêter de râler, arrêter de me plaindre, mais je veux que chaque fois qu'une personne m'embête sur la route, je veux hériter ta bénédiction, donc je vais la bénir. Je vais dire, Seigneur, que tu puisses bénir cette personne, que tu puisses lui faire du bien. Et je sais que moi le Seigneur en retour va me bénir. Ça, c'est régner dans la vie. Ça, c'est les décisions qui changent notre existence. Dans Romains, toujours, mais au chapitre 6, c'est le verset 12, il est dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. N'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Si on n'est pas les princes et les princesses de notre Seigneur, ses enfants royaux, alors on est sous le joug de l'ennemi. On est sous le joug du prince de ce monde. Et on est esclave du péché. C'est le péché qui règne dans notre vie. C'est simple. La Bible, elle est simple, elle est claire. Soit c'est Dieu qui règne dans notre vie par sa grâce et sa miséricorde, soit c'est le péché qui règne. On peut pas être au milieu, on peut pas dire « Non, moi je crois pas à ces choses-là, donc ça me touche pas ». Mais non, parce que la réalité, c'est que c'est le péché qui règne. Il y en a besoin. On n'a pas seulement la grâce d'avoir Dieu comme notre roi, mais on a le besoin de l'avoir comme sauveur aussi. Parce que c'est celui qui nous délivre du péché et qui permet que nos vies deviennent des instruments de justice. Vous trouvez qu'il y a des injustices dans ce monde? Qui trouve qu'il y a des injustices? Il n'y en a pas beaucoup, vous êtes positif, dis donc. Moi, je trouve qu'il n'y a que des injustices, quasiment. Mais j'ai décidé, personnellement, que ma vie soit un instrument de justice. Et ça change tout, parce que souvent, les gens qui se plaignent, il n'y a pas de justice, mais eux-mêmes, ils essayent de tirer la couverture vers eux. Ils essayent de prendre tout ce qu'on peut prendre. Ils trichent avec les assurances, ils font ceci, cela, la sécurité sociale, la CAF, tout ça, des fausses déclarations pour avoir le maximum. Et après, on dit, ah, c'est injuste. Mais oui, mais si ton corps devient un instrument de justice, le Seigneur va te bénir. Et même si les fins de mois c'est difficile, le Seigneur il a promis qu'il est celui qui pourvoit à ses enfants. Mais à ses enfants, il pourvoit pas de manière comme ça, au hasard, il tire pas au sort. Tiens, hop, allez, je vais bénir telle personne qui est à Moissac. Non, non. Il regarde si c'est une personne qui a accepté Jésus-Christ dans son cœur. Ce qui nous donne l'autorité royale, c'est d'avoir simplement la personne de Jésus-Christ en nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors soyons des princes, soyons les dignes fils et filles de notre Père Céleste. Et soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait. C'est pas moi qui le dis, hein, attention, c'est la Bible. C'est pour ça que c'est un commandement difficile, mais c'est Jésus qui l'a dit. Il nous ordonne d'être parfaits. C'est pas possible par nos propres forces, mais par la grâce de Dieu. Nous pouvons dominer sur la mort et sur le péché. Au verset 10, on a vu qu'il y avait aussi des sacrificateurs. Le Seigneur nous invite à être des hommes saints, à être des personnes qui, comme les prêtres qui étaient là et qui servaient le Seigneur, qui étaient appelés à se consacrer, à se sanctifier. Ils étaient pendant toute leur vie, ils étaient à part des autres hommes du peuple d'Israël, parce que c'est eux qui devaient servir dans le temple, c'est eux qui devaient faire toutes sortes de choses dans le temple, c'est eux qui, à un en particulier, qui avait reçu l'onction, il pouvait se présenter dans le lieu très saint, et il pouvait avoir accès à la présence de Dieu de manière très particulière. Mais vous savez, on l'a chanté, on l'a déjà lu, mais nous sommes tous des sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui sont appelés à être saints et avoir cet accès à la présence de Dieu. Combien c'est bénissant de pouvoir vivre ces temps dans le lieu très saint. Le lieu très saint, c'est où? Est-ce que c'est à Jérusalem? Le problème, c'est que le temple, il n'est pas reconstruit. Donc, si vous cherchez à Jérusalem, vous allez vous planter. Si vous allez à Lourdes, ça marche pas non plus parce que c'est pas ça que Dieu recherche. Dieu, il veut manifester sa présence dans notre cœur. Il veut habiter dans nos cœurs par son esprit. Et il veut que nous ayons cette communion avec lui jour après jour. C'est plus une seule fois dans l'année. Merci Seigneur que c'est toutes les fois où on a besoin. On peut venir dans le lieu très saint. On peut simplement en fermant les yeux, en criant au Seigneur. Le Seigneur, il est là. Il nous répond. Avant, il fallait qu'il y ait tout un processus, des habits particuliers. Je vous passe les détails. Il fallait qu'il y ait toute une cérémonie pour que le sacrificateur, il puisse rentrer dans le lieu très saint. Par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons nous approcher avec tremblement, c'est ça? Ah non, avec assurance du trône de la grâce et trouver grâce pour être secouru dans tous nos besoins. Dieu a dit ça à un moment donné quand il allait donner la loi au peuple d'Israël avec Moïse. Il a dit « Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, on a renouvelé l'alliance une des dernières fois, mais écoutez ce qu'il dit. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Ça veut dire que chacun d'entre nous, nous sommes appelés à être un sacrificateur. Qu'est-ce que fait le sacrificateur? Mais comme son nom l'indique, c'est pas compliqué, hein. Il offre des sacrifices. Et nous sommes appelés à être de ceux qui offrent à Dieu des sacrifices. Pas d'offrir des animaux, cette période-là est révolue, heureusement. On aurait des problèmes avec les gens de la SPA aujourd'hui, mais c'est offrir toutes sortes de choses. Dans Marc 12, il y a un monsieur qui vient voir Jésus, un scribe, qui lui demande c'est quoi le plus grand commandement. Jésus lui dit, c'est quoi les plus grands commandements d'ailleurs? Tiens, est-ce que vous le savez? Voilà, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et attention, hein, faut pas oublier celui-là. Ton prochain, comme toi-même. Exactement. Et donc, le scribe lui répond cette phrase. Bien maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique. Il n'y en a point d'autre que lui, que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même. C'est plus que les holocaustes et les sacrifices. Le sacrifice que Dieu, il attend de chacun d'entre nous aujourd'hui, en 2017, et en 2018, et tout le temps que le Seigneur nous mettra sur la terre encore, c'est un sacrifice d'amour. Dieu veut que nous l'aimions. Il veut pas que ça soit une religion dans laquelle on fait les choses parce qu'il faut les faire, et on peste, et on dit « Oh, c'est trop dur !» Mais non, qu'il y ait un amour. Quand on fait les choses par amour, même les choses les plus difficiles deviennent faciles, quand c'est fait dans l'amour. Mais il veut aussi, pas seulement qu'on ait un amour orienté vers lui, mais un amour aussi orienté les uns vers les autres. Ça, c'est offrir un sacrifice d'amour, que de prendre soin de ton frère, de ta sœur qui est à côté de toi. Des fois, de passer un coup de fil, J'aime bien prendre ces exemples tout simples. Envoyer un texto, passer un coup de fil, faire une visite à quelqu'un, c'est un sacrifice d'amour. Et en tant que sacrificateur, c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle chacun. Ce n'est pas que les pasteurs. Bien sûr que le pasteur le fait d'autant plus. Mais nous sommes tous appelés à offrir des sacrifices d'amour à notre Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut offrir comme sacrifice? Oh, il y a un texte qui m'est venu immédiatement. Oui, il y a celui-là aussi, on va y venir. Mais celui qui commence par « Je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir » À offrir quoi? Vos corps, comme des sacrifices vivants. Vivants, sains et agréables à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous voulez offrir un bon culte au Seigneur? Vous voulez que ce matin, le Seigneur vous bénisse particulièrement? Offrez vos corps, comme un sacrifice vivant. Dieu, il n'attend pas qu'on offre un animal mort, comme ça, avec le sang qui coule. L'image, maintenant, ça nous effraie tout ça aujourd'hui. Mais Dieu l'attend des sacrifices vivants, nos propres vies, et avec cette disposition de cœur, Seigneur, je veux faire ce que tu veux. Me voici, envoie-moi. De la même manière que les prophètes ont pu parler ainsi, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui? Mais conduis-moi, dirige-moi, et moi je veux avancer dans tes pas. Regardez maintenant le contexte de ce verset qui a été cité dans Hébreux chapitre 13, verset 14. Parce qu'on le connaît bien, cet sacrifice de louange. Mais regardez ce qu'il est dit juste avant. Hébreux 13, verset 14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. En gros, ça veut dire, je résume, nous voulons habiter dans la nouvelle Jérusalem. Nous voulons habiter la ville sainte. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il faut se comporter? Alors, il est dit, par Jésus, offrant sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Vous savez que quand vous ouvrez votre bouche pour confesser le nom du Seigneur, que ça soit dans l'église ou ailleurs d'ailleurs, peu importe, mais vous êtes en train d'offrir un sacrifice de louange au Seigneur. Quand je confesse le nom de mon Seigneur, quand je suis au boulot et que on me pose des questions sur ma foi et que je confesse que Jésus est la vérité, le chemin et la vie, même si autour de moi ça rigole et ça se moque, j'offre un sacrifice de louange au Seigneur. Et vous inquiétez pas, le Seigneur vous le rendra. Ça, il a promis. Et si vous récoltez dans un moment quelques moqueries, c'est pas grave. Parce que le Seigneur, il regarde au-delà. Il a dit qu'il bénirait, il nous bénirait toutes les fois même où on serait moqué à cause de lui. Merci Seigneur. Offrant au Seigneur un sacrifice de louange. Je racontais cette semaine ce témoignage dont j'ai entendu parler la semaine dernière quand j'ai rencontré des pasteurs. D'ailleurs, ça s'est passé à Sainte-Agne, mais je sais pas si vous êtes au courant les jeunes, mais il y a un jeune garçon qui souffrait d'un ulcère de l'église des Minimes, qui souffrait d'un ulcère parce qu'il était très stressé pour toutes sortes de raisons, ça allait mal dans la famille, ça allait mal dans les études, toutes sortes de choses qui étaient là, il était stressé et ça a développé un ulcère dans l'estomac. Et à un moment donné, il y a eu une réunion en commun, je crois, c'était en mai, par là, enfin, c'est vous qui savez les dates, à Sainte-Agne, les jeunes des Minimes sont venus aussi. Et il y a eu un temps de louange particulier. Ce jeune homme, il a suivi les autres, parce qu'il avait des copains qui étaient là. Il les a suivis. Mais alors qu'il a entendu ces chants, alors qu'il était dans cette atmosphère de la présence de Dieu vraiment, il a commencé à ouvrir les yeux sur ce que Jésus avait fait pour lui. Il a commencé à remercier le Seigneur pour ce qu'il avait fait, à confesser son péché. Et puis il a commencé à confesser le nom du Seigneur, à offrir un sacrifice de louange. Et alors qu'il fait cela, il a vraiment fait la paix avec Dieu, il s'est converti vraiment, il était différent quand il est rentré dans ce lieu que quand il est sorti. Mais au bout de quelques jours, il s'est aperçu par contre qu'il avait plus du tout mal à l'estomac. Et donc il a fait des examens, et non seulement il avait fait la paix avec Dieu, mais le Seigneur avait posé sa main sur son estomac, il avait totalement guéri de l'ulcère. Parce qu'il avait offert un sacrifice de louange, le Seigneur l'a béni. Combien ça vaut la peine, frères et sœurs, quand on offre notre sacrifice de louange, quand on ose ouvrir la bouche et dire « Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom ». Peu importe la timidité, je peux vous parler pendant 10 heures si vous voulez, je vais pas le faire là, mais de la timidité, que c'est un frein, parce que j'étais quelqu'un de très timide. Mais quand on laisse le Saint-Esprit nous saisir et qu'on ouvre la bouche pour confesser le nom du Seigneur, alors le Seigneur est celui qui nous fortifie, il nous encourage, il nous permet de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire. Parce que il est un Dieu merveilleux qui nous surprend, offrant des sacrifices de louange. Regardez ce qu'il dit juste après. Des fois, on cherche des choses compliquées dans la parole de Dieu, faire toutes sortes d'études. Mais regardez, là, c'est simple, c'est dit noir sur blanc. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. On peut offrir des sacrifices de louange, des sacrifices d'amour, des sacrifices de notre vie, mais le Seigneur, il veut aussi des sacrifices de générosité, la bienfaisance, la libéralité. Je ne vais pas m'étendre 3 heures sur ce sujet, parce que je sais qu'on est déjà dans cette disposition à Moissac. On a pu participer à cette opération pour venir en aide à ceux qui ont été touchés par le cyclone Irma dans les Caraïbes. Et vous savez, j'ai un chiffre qui montre tout ce qui a été donné par toutes les églises de France. 70 000 euros ont pu être récoltés par les églises. Et il y a une petite portion de l'église de Moissac au milieu. Hein. Mais on a pu participer à cet effort. Et donc, dans un premier temps, ils ont pu envoyer 20 000 euros à l'église de Saint-Martin, au pasteur qui est là-bas. Et donc, ce pasteur, il s'appelle Patrice Ladislas. Il remercie les églises de France, parce qu'ils ont pu commencer à équiper en électroménager ceux qui ont été sinistrés. Et ils ont commencé à participer à la réfection des toitures. Vous voyez que des fois, on fait un petit geste, on met une petite pièce ou un petit billet dans le tronc au fond, là-bas, mais c'est un sacrifice de générosité. Et ça aussi, le Seigneur, il prend plaisir, c'est ce qu'il est marqué, non ? Ou c'est moi qui ai rêvé ? C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Ça serait vous mentir de vous dire, non, sur Dieu, il faut pas mélanger Dieu et l'argent. Non, mais quand quelqu'un donne avec un cœur droit, un cœur vrai, peu importe la somme, c'est pas ça. Dieu, il regarde au cœur. Quand on le fait, alors le Seigneur, il nous bénit derrière. Et quelle grâce de pouvoir participer. Imaginez que vous perdiez toute votre maison, tout votre électroménager. Vous seriez pas content que des personnes de l'autre bout du monde puissent participer à un petit peu, quelques pièces, et vous aider à ce niveau-là. Combien c'est bien quand on peut répondre de cette manière-là. Ça, c'est tous les sacrifices qu'on peut offrir au Seigneur. Il y en aurait d'autres à dire, mais je veux passer rapidement au troisième point, troisième catégorie de personnes, après les hommes de sang royaux, les princes, après les hommes saints, les prêtres. On veut être des hommes de service, des lévites. Au verset 15, il est question de tous ces lévites. Oh, il est dit particulièrement, ils étaient chargés des affaires extérieures de la maison de Dieu. Il y en a d'autres qui étaient occupés d'entonner le chant, d'entonner la louange au moment de la prière. D'autres qui étaient des portiers. Tout ça, c'était des façons de servir le Seigneur d'une autre manière. Vous savez qu'il y avait les fils de Lévi. Il y avait ceux qui étaient les fils d'Aaron de manière particulière, qui étaient les sacrificateurs. Et puis, il y avait tous les autres. Les fils de d'Aaron, donc, c'était ceux dont on vient de parler. Et les Lévites, c'est tous les autres qui assistaient. Lévi, ça veut dire attaché, adjoint, assistant. Ils assistaient les sacrificateurs dans toutes les tâches qu'ils devaient faire. Par exemple, s'ils devaient faire le sacrifice d'un animal, eh ben c'est eux qui allaient couper le bois, c'est eux qui préparaient les pains de proposition, c'est eux qui faisaient toutes sortes de choses, et les sacrificateurs, et eux, ils présentaient toutes ces choses devant Dieu. Bon là, c'est un cours accéléré du Lévitique. Mais vous pouvez trouver tout cela en lisant la parole de Dieu. Mais nous sommes tous des lévites. Nous sommes tous des adjoints de quelqu'un. On peut pas dire, moi je vais servir Dieu tout seul. Moi je vais travailler pour le royaume de Dieu, mais en solo. Je vais la jouer perso. Mais si vous voulez la jouer perso, ça sera pas dans l'équipe du royaume de Dieu. Parce que le Seigneur, il nous appelle tous à être des frères et des sœurs qui travaillent ensemble. Et on est tous à notre niveau, tous dans notre service, l'adjoint de quelqu'un. On est tous amenés à assister quelqu'un par notre vie. Et le Seigneur nous invite à avoir ce travail-là. Il y avait les chargés d'affaires. Imaginez ce titre. Vous êtes des chargés d'affaires. C'est beau, non ? Ça vous plaît pas, ça ? Mais regardez ce que c'est. Chargé des affaires extérieures de la maison de Dieu, littéralement, ça veut dire responsable des travaux extérieurs. C'est une bonne façon de dire les choses, hein. Responsable des travaux de la maison extérieure. Mais réalisez un petit peu. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui étaient là, qui, s'ils voyaient qu'il y avait une faille dans le temple, l'aspect, le design du temple, ils étaient là pour que tout soit parfait, tout soit nickel. Est-ce que l'on n'est pas appelé par le Seigneur à présenter autour de nous l'image de l'Église, l'Église sainte, l'Église parfaite, l'Église que le Seigneur il attend? Est-ce que c'est pas ça que le Seigneur nous appelle à faire? Oui. Et comment est-ce que ça se passe? Mais ça se passe simplement par nos vies. Nous sommes responsables de ce que les gens pensent de l'Église. Si justement, quand quelqu'un me fait une queue de poisson, je lui klaxonne pendant 3 heures, je le poursuis avec ma voiture et j'essaie de, moi-même de le dépasser pour faire une queue de poisson, quelle image il va penser s'il voit un poisson derrière la voiture? Il va se dire, celui-là, ouais, tiens, c'est un bon chrétien, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, mais c'est à nous. Paul a dit, vous êtes des lettres lues de tous les hommes. Que vous le vouliez ou non, c'est ça, que les gens, quand ils vous regardent, quand ils me regardent, ils voient une personne, soit qui aime le Seigneur, soit qui est hypocrite, qui aime le Seigneur le dimanche matin, mais qui le reste de la semaine fait autre chose. Mais le Seigneur nous appelle à être de ceux qui sont chargés des affaires extérieures. Seigneur, je veux présenter une bonne image. Je veux être ce bon ambassadeur pour montrer à tous les hommes que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de paix, un Dieu de grâce. Il y avait ceux qui étaient chargés de la louange. Dieu nous appelle à être des adorateurs. Tous aussi. Je vous dis pas de prendre la guitare et de venir chanter, parce que peut-être certains ne savent pas le faire, c'est pas grave. C'est pas ça que Dieu regarde. Il y en a qui veulent essayer. Non? Odile ne veut pas. En tout cas, c'est pas grave. Parce que le Seigneur nous appelle à être des adorateurs comment? En esprit et en vérité. C'est-à-dire dans notre cœur. Et de toutes les fois où on est tout seul, toutes les fois où on a des décisions à prendre et à des endroits où on doit pas aller et qu'on dit non, je veux pas y aller, on adore le Seigneur en esprit, en vérité. Toutes les fois où on entend des mauvais propos et on ferme nos oreilles, on s'arrange pour que le sujet de conversation change ou qu'on s'en va, on adore le Seigneur en esprit, en vérité. C'est très pratique, c'est ce que je vous dis, mais c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et il nous appelle, quand une personne est dans la difficulté, quand une personne est dans la détresse et qu'on va la voir, on écoute, on entend son cœur qui se répand, mais à un moment donné, on donne une parole d'encouragement. Eh bien, on adore en esprit et en vérité, dans tous ces moments-là. Et puis, il y avait aussi les portiers. Je termine avec cette pensée. Les portiers, c'était ceux qui étaient chargés de veiller à l'entrée des portes de la maison de Dieu. Donc, ça demandait du discernement parce que il fallait qu'ils discernent quelle personne allait venir. Il y avait des étrangers qui n'avaient pas le droit de venir, de rentrer. Pour offrir des sacrifices, il y avait certains qui devaient aller jusqu'à un certain endroit, mais pas plus loin. Et il y avait le discernement aussi quant à, pour nous aujourd'hui, quant à l'enseignement, quant aux doctrines que l'on peut entendre, quant aux choses que l'on peut voir sur Internet. Aujourd'hui, on a toutes sortes de moyens de prédication et toutes sortes de sources différentes. Et il faut avoir ce discernement. Il faut que nous soyons tous ces portiers qui veillent pour que la maison de Dieu ne soit pas infectée, que seulement ce qui est saint puisse rentrer et que la sainteté puisse être communiquée vers l'extérieur et que ça soit pas l'inverse qui se passe. Dieu nous demande aujourd'hui d'être des sentinelles aussi pour que tous ceux qui sont au dehors et qui savent pas où aller, qui sont perdus, puissent comprendre que c'est en Jésus que se trouve la solution à toutes choses. Amen. Vous êtes des portiers? Vous vous mettez pas tous à la fin, à la porte, hein, ça sert à rien, c'est spirituel. Mais on veut être de ceux qui veillent. On veut être des princes, des prêtres, des lévites, des personnes qui vont habiter la ville sainte. Et qui un jour, oui, on va régner sur la terre par la grâce de Dieu. Mais quelle bénédiction de réaliser que notre Seigneur, lui, il est venu sur la terre comme un serviteur. Et je voudrais qu'on puisse fermez les yeux pendant quelques instants. Si nous avons la grâce de pouvoir habiter la nouvelle Jérusalem, c'est parce que Jésus, il a montré l'exemple lui aussi. Il est venu comme un serviteur. Il s'est dépouillé de la gloire céleste qu'il avait. Il a été obéissant, obéissant même jusqu'à la mort de la croix. Il nous a montré par les souffrances qu'il a endurées le chemin que nous devions suivre. Jésus, il est venu offrir aussi le meilleur sacrifice, c'est le meilleur sacrificateur, le seul sacrifice qui nous ouvre le ciel. Il a donné sa propre vie. Et cette scène, ce repas, nous rappelle ces choses. Son sang qui a coulé, son corps qui a été brisé, pour que nous puissions être adoptés du roi des rois, et que nous puissions devenir ses habitants qui vont repeupler la nouvelle Jérusalem. Et ce qui est merveilleux, c'est que encore aujourd'hui, si quelqu'un confesse le nom du Seigneur, si quelqu'un invoque le nom du Seigneur, il peut être sauvé à cause de ce sacrifice merveilleux. Mais notre espérance ne s'arrête pas là, puisque nous savons que Jésus va revenir nous chercher Et à ce moment-là, il reviendra comme le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus revient et nos cœurs sont dans la joie parce que notre espérance est grande. Nous voulons relever la tête et nous voulons réaliser combien c'est une grâce que d'appartenir à la famille de ce roi des rois et qu'il va nous préserver de tous ces malheurs qui vont s'abattre sur la terre, mais qu'il va nous amener dans cette paix éternelle. Mais jusqu'à ce qu'il vienne, nous voulons être, nous, de ceux qui répondent à cet appel du Seigneur, à être des princes, des prêtres, des lévites, des serviteurs, ceux qui offrent leur vie comme des sacrifices vivants. Merci Éternel, merci pour ta parole, merci pour ton esprit qui agit dans nos cœurs, merci ta présence dans ces moments. Merci parce que je crois, Seigneur, que rien qu'à l'annonce de ta parole, tu fais déjà une œuvre, Seigneur. Et combien mon cœur est réjoui. Combien mon cœur, Seigneur, te célèbre. Parce que j'ai tellement vu de fois où tu as béni simplement au travers de ta parole. Comme tu as béni ce jeune homme souffrant de l'ulcère de l'estomac. Simplement pendant des chants, simplement alors qu'il confessait ton nom. Seigneur, tu es capable de nous bénir dans ces instants. Merci pour ce projet de vie que tu nous offres, Seigneur. Oui, nous voulons habiter la nouvelle Jérusalem. Nous voulons être de ceux qui peuplent la ville sainte, Seigneur. Nous voulons être des hommes saints. Nous voulons être des princes de ta famille, Seigneur. Merci pour ce salut que tu nous offres. Seigneur, permets qu'encore aujourd'hui, des personnes puissent réaliser qu'ils ont besoin de toi, qu'ils ont besoin eux aussi de faire partie de ton peuple et de vivre cette bénédiction que tu leur offres gratuitement. Oui, gratuitement, même si elle t'a coûté cher. Elle a coûté, Seigneur, ta vie sur la croix. Merci, parce que ta mort nous donne la vie, Seigneur. Amen.